en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Et voilà, cette petite cloche a sonné donc pour la dernière fois, pour la dernière fois. Elle ne sonne pas aux séances de l'Académie française.
Si, nous avons une petite cloche.
Vous avez une petite cloche aussi.
Dont les directeurs hésitent à se servir, ils sont timides, mais parfois je leur dis, prenez-la,
pour faire l'ordre. Chère Madame Le Perpétuel, Madame Carrère-Dancos, l'année dernière, vous aviez été éblouissante pour nous parler de la transition entre l'Union soviétique et le nouveau régime, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique, le nouveau régime. Nous en avions profité naturellement pour parler des personnages extraordinaires de cette période, Eltsine, Poutine. Nous sommes dans cette période du centenaire que nous avons abordée ce matin avec Georges-Henri Soutou. Nous avons avec lui traité de l'année 1917, mais vu du point de vue stratégique de la guerre de 14-18, etc., sans aborder réellement le point de la révolution et encore moins des Romanov. Avec vous, le plaisir que nous allons avoir, c'est de vous entendre précisément sur la tragédie des Romanov. Je dirais que vous avez consacré toute votre vie d'écrivain, historien, à la Russie pour l'essentiel, puisque c'était il y a près de 40 ans que vous avez publié « L'Empire éclaté », cette vision extraordinaire que vous aviez de la perspective de la Russie, et vous avez travaillé effectivement énormément sur la Russie des tsars, la famille des Romanov et un certain nombre de ces grands tsars, Catherine II, Alexandre II, Nicolas II. Et c'est évidemment à ce propos que nous allons vous écouter maintenant. Mes questions seront d'une nature simplissime, puisque nos amis pourront ensuite se procurer votre livre sur les Romanov. Et on va concentrer notre attention, évidemment, sur ce qui se passe pour ce pauvre tsar Nicolas II en février 1917. Pourquoi il abdique? Mais avant, il faut nous faire le portrait de Nicolas II. Je dois dire que je regardais récemment l'un de ses voyages en France, qui était extrêmement brillant au début du XXe siècle. Je ne sais plus si c'est 1902 ou 1906, je crois que c'est 1906, où il était venu inaugurer les travaux du pont Alexandre III, dont il était le fils. Et inaugurant ces travaux, la République lui avait fait un accueil triomphal, et Paris. Et donc, il y a eu une période brillante de Nicolas II. Cette période brillante, il y a un premier accident qui est 1905. Il le surmonte. La Russie voit son économie se développer. Et puis, deuxième accident, celui-là en 1917, après qu'il a choisi d'être l'allié des alliés français et britanniques. Et donc, c'est ce qui va précipiter la révolution qui va suivre. Et donc, voilà, ma première question, c'est ce Nicolas II du début.
Alors, si vous permettez, je voudrais ajouter une dimension à votre question. Vous avez toujours des questions remarquables parce que vous obligez à aller au-delà.
C'est très
bien. Et je vous en remercie. C'est-à-dire que Nicolas II ne pouvait pas s'attendre à ce qui lui est arrivé dans la mesure... D'abord, où il était en pleine gloire.
Est-ce que le micro est bon, là?
Il y a un problème?
Un peu plus vers vous. Voilà.
Là, ça va?
Voilà, là, ça va très
Merci.
Bien.
Merci. N'hésitez pas à le dire. Hein.
Mais c'est
je suis là pour vous, alors. Non, mais c'est vrai. Bon, ce que je veux dire, c'est que Nicolas II était en pleine gloire juste avant que la catastrophe n'arrive. Et il pouvait avoir... Vous avez évoqué son voyage en France. Nous avons, à l'Institut de France, dans le palais de l'Institut que l'on visite aujourd'hui, un tableau extraordinaire de sa venue en France précisément pour ces événements, où on voit, où on le voit, il est venu à l'Académie française. L'Académie française ne reçoit que des chefs d'État, elle recevait que des souverains. Désormais, les souverains étant rares, c'est plutôt des chefs d'État qui ne sont pas couronnés. Et il a évidemment été reçu. C'est-à-dire que c'est un signe de déférence à l'égard de ce souverain qui montrait très bien que la Russie, pour la France, était un pays qui comptait énormément. C'était notre allié de revers. Alors, il y a la gloire de l'alliance avec la France. Les relations franco-russes ont souvent été compliquées. Tantôt, elles étaient admirables. Tantôt, elles étaient, je dirais, assez hostiles. La guerre de Crimée en est un témoignage. Mais justement, après la guerre de Crimée, toute la fin du XIXe siècle et du début du XXe, c'est la passion franco-russe. Oui. Alors, de surcroît, la Russie, en 1913, Nicolas II célèbre le tricentenaire de la dynastie des Romanov. C'est-à-dire qu'il traverse tout son pays, mais véritablement tout le pays avec sa famille. Il est accueilli partout, acclamé par des foules. Ce sont des grandes festivités populaires. Il doit avoir le sentiment qu'il a un peuple qu'il adore passionnément. Si vous voulez, il ressort de ce périple fantastique à travers le pays où il est salué comme celui qui incarne une dynastie qui, depuis 3 siècles, a assuré la grandeur du pays. Et évidemment, il a un sentiment de sécurité. J'ajouterais que à cette époque-là, vous l'avez évoqué, la Russie connaît un succès économique considérable. La France y est d'ailleurs pour beaucoup, et probablement un certain nombre d'entre vous ont-ils le souvenir des emprunts russes. Quelle famille n'a pas cela? Bon, la France a considéré à partir du début du XXe siècle que la Russie c'était l'Eldorado, l'endroit où véritablement les entrepreneurs pouvaient faire des affaires, où les particuliers pouvaient gagner de l'argent. Et par conséquent, il y a cette extraordinaire expansion économique qui se traduit par la présence, par les grands investissements étrangers en Russie, mais avant tout français, anglais aussi, mais français surtout. Ça se traduit par la présence de combien d'entrepreneurs français qui se précipitent pour construire les chemins, pour accélérer la construction des chemins de fer, pour monter des entreprises de luxe. Enfin, la France est très présente. Et puis, ça se traduit par quelque chose de très remarquable, car vous savez tous que sous le régime soviétique, on a manqué de tout. La Russie, la 1913, c'est une année fantastique du point de vue de la production agricole. La Russie est la grande exportatrice de produits agricoles et avant tout de céréales. On peut dire que tous les indicateurs sont, 4 ans avant la catastrophe, tout à fait remarquables. Ça, c'est ce qui peut rassurer Nicolas II. Alors évidemment, il y a des choses qui ne peuvent pas le rassurer. La première chose, c'est qu'il s'est lancé en 1904 fort imprudemment dans une guerre en Extrême-Orient, la guerre russo-japonaise. Ça s'est terminé par un désastre. Et il s'y est lancé précisément parce qu'au début quand il est monté sur le trône, le pays était en situation difficile, on pourrait y revenir. Il a senti qu'il y avait un mécontentement social, il y avait des difficultés au début du siècle, et il a pensé que la guerre était une solution, une guerre lointaine contre des Japonais. Les Japonais, on se disait que c'était des êtres inférieurs. Enfin, bien que le Japon soit un des modèles d'expansion, de développement économique, et je dirais un des modèles que la Russie a regardé avec beaucoup d'intérêt. Mais Nicolas II, et comme vous avez posé le problème de son caractère, j'y insiste, n'était pas assez assidu à la réflexion, à l'information. Il ne s'est pas rendu compte que le Japon, précisément, c'est le pays contre lequel il valait mieux ne pas se lancer. Bon, la guerre s'est terminée par un désastre. Le désastre a entraîné, des désordres en Russie, la révolution de 1905. Bref, tout cela a marqué très durement ces premières années du siècle. Mais il y a le redressement après cela. Et on pourrait y revenir à un redressement qui n'est pas seulement économique, un redressement, une transformation intellectuelle et sociale du pays qui est extraordinairement importante. Donc Nicolas II a toutes les raisons d'être rassuré et de considérer, et surtout il croit que le pays l'aime. Alors maintenant, il faut dire un mot de qui était Nicolas II. Et ça, c'est un autre problème. C'est un personnage très, très étonnant. C'est à la fois, c'était un homme intelligent, pas génialement intelligent, mais intelligent. d'une curiosité limitée. C'est très intéressant de comparer Nicolas II et Louis XVI. Il y a un parallèle à faire entre les deux hommes, à la fois parce qu'ils incarnent la fin d'une dynastie, véritablement. Après ça, même en France, c'était tout de même la fin de quelque chose. Les deux hommes sont, on les compare volontiers. Je dirais qu'il y a une très grande différence entre les deux. Louis XVI était un esprit, contrairement à la légende, extraordinairement curieux, extraordinairement cultivé, avec un esprit scientifique et géopolitique très développé. C'est ce qui, si je cite ça, c'est pour dire que tout cela manquait à Nicolas II. Il n'était pas très cultivé. Son père lui avait fait donner d'excellents précepteurs, mais les précepteurs déploraient parfois son manque de curiosité, son manque d'attraction pour les questions qui peuvent se poser. C'était un homme intelligent. Autre parenté entre les deux, ce sont deux hommes qui ont été très attirés, très marqués par l'influence de leur femme. Mais autant Louis XVI n'a pas été un homme heureux, autant Nicolas II a été un homme heureux en ménage. Il avait une passion pour sa femme avait une passion pour lui, et je dirais que c'est une partie de son malheur. Mais je vais y revenir.
Bien sûr.
Pour revenir à son caractère, en allant plus loin, il est clair que à certaines limites intellectuelles. Une fois encore, ça n'était pas un imbécile, c'était un homme intelligent, mais probablement dont l'intelligence et les capacités intellectuelles n'étaient probablement pas assez adaptées aux événements qu'il allait vivre. Et s'ajoute à cela le fait qu'il avait été élevé par un père, Alexandre III, qui est monté sur le trône quand son propre père a été assassiné par les terroristes, puisque Alexandre III était le fils d'Alexandre II, le tsar libérateur, celui qui a anéanti véritablement le servage contre les pressions sociales, et il a été assassiné par des terroristes, d'une certaine façon parce que ceux-ci pensaient qu'il allait trop vite et qu'il leur coupait la voie vers le pouvoir. Enfin, ça c'est un autre problème, on ne peut pas y revenir. Mais la conséquence de cela, c'est que Alexandre II, qui n'avait pas été élevé dans un esprit libéral, c'était le fils de Nicolas Ier, le tsar gendarme de la guerre de Crimée, il avait été élevé pour maintenir le système, mais il avait compris qu'il fallait changer. Le malheur de Nicolas II, c'est que le fils d'Alexandre II, qui sera Alexandre III, a été évidemment traumatisé par l'assassinat de son père. Il en avait conclu que en fait, réformer, essayer de transformer le pays, essayer de le moderniser, ça aboutissait à ce qu'on vous assassine. C'est exactement la conclusion qu'il en a tirée. Ça n'était pas lui non plus, je dirais, un esprit extraordinairement ouvert. Et il a légué à son propre fils, à ce jeune Nicolas, qui deviendra Nicolas II, à la fois une éducation très conservatrice, ça c'est extrêmement important, la peur du changement, et je dirais, une certaine fermeture d'esprit. Alors, à cela s'ajoute que Nicolas II, de tempérament, était certainement un personnage très pessimiste. Bon, il y a quelque chose qui l'explique. Tout petit garçon, il avait une dizaine d'années, il s'est trouvé au chevet de son grand-père Alexandre II. Quand on a rapporté Alexandre II au palais, il avait été déchiqueté par une bombe. Le tsar libérateur a été rapporté complètement détruit par la bombe, il avait un œil arraché, les membres arrachés. Cet enfant qui savait à quel point son grand-père avait joué un rôle extraordinaire, on l'avait élevé avec ça. Il a hérité de l'idée que, en effet, rien n'était plus dangereux que les réformes. Et ça, certainement, contribue à façonner un caractère assez sombre. Une de ses phrases favorites, il disait « Je suis né le jour de la Saint-Job ». Et Job, c'est l'homme qui gémissait sur son fumier. Quel destin, disait-il.
Oui, oui.
Vous comprenez très bien, on voit très bien que ce personnage n'était pas préparé pour régner. Alors, là-dessus s'ajoute, et je vais m'arrêter là, le drame que représentait, j'ai évoqué le mariage de Louis XVI et le mariage de Nicolas II. Louis XVI n'a pas été heureux, mais ça n'a pas pesé sur lui. Nicolas II, qui était passionnément heureux, a payé ce bonheur d'une façon terrible. Il l'a payé de plusieurs façons. D'abord, il a la princesse qu'il avait épousée, c'était une princesse allemande, c'était la petite fille de la reine Victoria, elle était porteuse d'une maladie terrible, l'hémophilie, et elle l'a transmise pendant... Ses souverains n'ont pas eu d'héritier mâle pendant 10 ans, s'étant mariés. Et il se trouve que en Russie, notre directeur de séance et mon confrère a évoqué Alexandre II et Catherine II. Catherine II a régné. Avant elle, avait régné Élisabeth, une fille de Pierre le Grand. C'est-à-dire qu'il y a eu des femmes qui régnaient en Russie. Mais quand Catherine II est morte, son fils, qui sera l'empereur Paul Ier, qui était un petit peu bizarre, qui détestait sa mère et qui se méfiait de sa mère, qui la haïssait, pour se venger d'elle, a décidé que les femmes ne régneraient pas. Il a pris des dispositions immédiatement pour changer les lois successorales et interdire l'accès au trône de Russie aux femmes. Et on peut dire que c'est cette décision folle qui a été payée par Nicolas II, qui pendant 10 ans n'a pas eu d'héritier mâle, mais des héritières femmes. Et du même coup, il a eu 4 filles magnifiques. Et bon, il lui prenait ça un peu, je dirais, avec sang-froid. Mais l'impératrice, qui était très, très fière d'être impératrice de Russie, et puis qui avait un tempérament assez torturé, déjà, elle avait une obsession. Il fallait un héritier mâle. Elle ne voulait pas que ce soit un des frères de son mari qui succède à son mari. Donc déjà, pendant 10 ans, il y a eu cette espèce de folie de l'héritier mâle. Et au bout de 10 ans, l'héritier mâle est arrivé et on s'est aperçu au bout de quelques semaines qu'il était atteint d'hémophilie. Et l'hémophilie, vous savez, c'est une maladie terrible puisqu'elle ne se guérit pas. Et elle affecte, enfin, au moins dans les connaissances de l'époque, elle condamnait à une échéance relativement brève celui qui en était atteint. Seuls les mâles en étaient atteints. Alors, la conséquence de ça... c'est que la famille impériale, ils ont décidé de cacher ça à la société. Et du même coup, Nicolas II et sa femme, qui déjà n'étaient pas très sociables, parce qu'ils étaient préoccupés par l'histoire de l'héritier mâle qu'il fallait avoir à toute force, se sont repliés sur eux-mêmes, ont vécu, au lieu de vivre dans une cour qui était brillante, ont vécu enfermés dans la vie privée, précisément pour qu'on ne voit pas cet enfant, pour qu'on ne le sache pas. Ils se sont coupés, non seulement... Ils se sont coupés de la noblesse, ils se sont coupés des milieux dirigeants. Et ils ne voyaient pas ce qui se passait. Donc on peut dire que le bonheur conjugal n'a pas empêché Nicolas II de le payer assez cher, car c'est l'impératrice qui était obsédée, je dirais, par cette idée qu'il fallait que son fils règne, non que personne ne devait se rendre compte de la maladie dont il était porteur. Et elle a été, alors c'est le dernier point que j'ajouterai, elle a été convertie à l'orthodoxie. Est-ce qu'il faut être orthodoxe pour régner sur le trône de Russie ? Elle a été convertie à l'orthodoxie. C'est une religion qu'elle n'a pas très bien comprise. Elle l'a comprise dans un sens extrêmement mystique. C'est-à-dire qu'elle s'est enfermée dans une religiosité qu'elle a mêlée avec les problèmes du pouvoir. Et elle a considéré que Dieu lui commandait, ou Dieu commandait au souverain et donc à elle, de maintenir l'ordre impérial tel qu'il était. Elle a conservé l'ordre tel qu'il existait. C'est une folie absolue. Mais tout cela dessine un paysage qui, d'emblée, si vous voulez, contredit ce qui se passe juste avant, dans les années 1910, quand 1905 est dominé. Il y a un pays en pleine expansion. Tout se passe, je dirais, la société s'enrichit, la société se développe. Les choses vont bien. La Russie est puissante et respectée dans le monde. On fête le tricentenaire des Romanov. Donc tout semble sourire à la famille impériale. Et en même temps, il y a cet enfermement privé, cet enfermement sur des principes conservateurs, alors qu'il y a eu la révolution de 1905 et qu'il est clair qu'on ne peut pas rester dans l'immobilisme et qu'on peut d'autant moins y rester qu'après 1905... Il se passe dans ce pays quelque chose d'extraordinaire. C'est une révolution intellectuelle et sociale dont on n'a pas conscience. On croit toujours que la Russie était un pays attardé. Or, il y a un véritable développement de l'éducation populaire. Partout, on peut dire que surgissent... l'enseignement existe dans tout le pays, mais il n'était pas très remarquable. Mais il y a un véritable enthousiasme des élites pour l'éducation des masses, pour... je dirais, le développement d'une culture populaire. Tout cela fait que le pays change et que forcément il est lucide sur les problèmes qui peuvent se poser. Il y a un décalage croissant. Le conservatisme du souverain et de la souveraine, qui en d'autres temps n'aurait peut-être pas eu de conséquences, à cette époque-là, un certain manque de lucidité ou de curiosité de Nicolas II, installé confortablement dans l'idée que le peuple les adore, et d'ailleurs que Dieu l'a commandé. Or, la société, et surtout le brave paysan qui vit durement, n'est pas du tout convaincu que Dieu lui a commandé des choses pareilles. Hein. Il faut voir les choses comme ça. Il y a donc un décalage qui va aller s'accentuant. Et pour vous dire à quel point la transformation du pays est spectaculaire, Lénine a écrit dans un texte que personne ne cite jamais, et c'est une grave erreur, il décrit la Russie après 1905. Lénine se trouvait en exil à l'époque, il rêvait à la révolution, mais enfin il rêvait à la révolution, il ne savait pas comment la faire, et ce texte s'appelle « La nouvelle démocratie ». Et ce qu'il appelle la nouvelle démocratie, c'est la description de la Russie par les renseignements qu'il a sur elle. Et il écrit, au fond, partout, le peuple s'éveille, le peuple s'éduque. Il y a une transformation partout, il y a une véritable armée de modernisateurs. On envoie dans les campagnes, ce qui explique la production agricole, on envoie des armées véritable d'agronomes, c'est-à-dire de gens qui savent comment moderniser l'agriculture. On envoie des vétérinaires pour faire progresser tout le bétail du pays. Les instituteurs se multiplient et les jeunes gens, même de la noblesse, sont heureux d'aller éduquer le peuple. Il y a véritablement cette nouvelle démocratie qui est en train de transformer le pays, et si ça se transforme trop vite, eh bien, nous ne pourrons plus faire la révolution. Si nous ne la faisons pas tout de suite, ça sera trop tard. C'est vous dire que Lénine avait compris que le pays changeait. Ce que Lénine a vu, Nicolas II ne l'a pas vu.
Et alors, ce qui est passionnant dans la description que vous faites, c'est que nous avons une double épreuve en 1904-1905, le désastre naval à l'égard du Japon, et 1905, ce premier... révolution, c'est en tout cas cette première insurrection qui échoue, à la suite de quoi 10 ans se passent et la Russie se relève.
Absolument.
Et vous avez très très bien montré qu'en 1913, le tsar Nicolas II estime que le peuple est derrière lui. Il l'estime tant. Alors là, j'aimerais avoir votre explication que lui va se lancer dans la guerre parce qu'il a reconstitué une puissance terrestre russe. Voilà. Mais comment convainc-il l'impératrice, qui est, elle, née allemande, de ce qu'il va se battre contre l'Allemagne ? Et c'est cet engrenage de la guerre qui va permettre à Lénine, finalement, de passer... Alors, ce sera en deux étapes. Hein, l'étape de Kerensky, puis l'étape de Lénine. Mais c'est tout de même avec la guerre que la révolution arrive.
Vous avez raison. Alors, je voudrais d'abord un point sur l'impératrice.
Oui.
Car elle est née allemande, mais c'était la petite fille de la reine Victoria. Mm-hmm. Et elle a été élevée auprès de la reine Victoria.
Voilà, c'est la clé.
Ça, c'est très important.
Voilà, bien sûr.
C'est-à-dire qu'elle ne parlait...
Absolument.
On ne voit aucune lettre écrite en allemand.
Absolument.
Elle s'exprimait en anglais.
Voilà, donc
et
c'est clair.
Avec l'empereur, avec Nicolas II, ils échangeaient en général en anglais, beaucoup plus qu'en autre chose. C'est une première chose. Et au fond, elle n'aimait pas sa patrie d'origine. Ça, c'est incontestable. C'est-à-dire, et elle a en plus... Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, sa conception tout à fait mystique de l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est la... il n'y a pas de Vatican chez les orthodoxes. Ce sont des églises, des églises d'État. Et l'église, c'est l'église du pays. Elle avait adopté, avec l'orthodoxie, la Russie. Les deux se confondent dans son esprit, si vous voulez. Pour elle, Dieu, l'orthodoxie, ça l'oblige à être une bonne Russe. Donc, si vous voulez, dans cette affaire, elle n'a pas d'état d'âme. Il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche... elle est incontestablement un élément, de nationaliste extrêmement fort.
À cause du mysticisme.
Absolument, à cause de ce mysticisme. Et puis alors, l'empereur Guillaume II, qui était le cousin de Nicolas II, il s'appelait Nicky et Willy, ils avaient des relations. Guillaume II essayait de pousser Nicolas II à des gaffes internationales. Ça, c'est absolument certain. Il essayait de le manipuler. Et comme elle était une bonne épouse, elle en était, et qu'elle n'était pas bête, elle en était extrêmement choquée. Donc on peut dire que beaucoup de choses chez elle militaient dans un sentiment plutôt anti-germanique. Alors, cela dit, il y a le problème de la guerre. Nicolas II, le désastre de 1905 est resté dans la conscience de Nicolas II et dans la conscience des Russes comme une profonde humiliation dont on pouvait tirer deux conséquences. Ou bien il vaut mieux ne pas se lancer dans des guerres, ou bien inversement, il faut démontrer que nous sommes puissants. Et je crois que c'est le second réflexe qui a joué dans l'esprit des souverains russes, c'est-à-dire prendre une revanche sur cette défaite. Il ne s'agissait pas d'aller taper sur les Japonais, parce que là, c'était d'ailleurs, l'Extrême-Orient était devenu une aventure dangereuse. En revanche, la situation internationale militait déjà, je dirais, pour que la Russie apparaisse comme une grande puissance. Alors, c'est la période de la grande alliance franco-russe. C'est, je crois qu'il faut être conscient de ça. La France, c'est le grand pays européen. C'est le pays qui a toujours... D'abord, ce sont deux pays. La géographie détermine les choses. Ils sont aux deux extrémités de l'Europe. Hein, ils encadrent l'équilibre européen dans l'esprit des Russes et dans l'esprit longtemps des rois de France. Ce sont les pays qui déterminent un certain équilibre européen. Très longtemps, sous la monarchie française, sous Louis XIV et Louis XV particulièrement, la Russie, c'était un pays redoutable qu'il fallait tenir à distance et surtout empêcher d'entrer sur la scène des grandes puissances européennes.
En s'appuyant sur les Suédois, ce qui est quand même assez drôle.
Absolument. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Puis ça a raté. Il a fallu admettre cette Russie qui, je dirais, s'est imposée. Le premier souverain à avoir tendu la main à la Russie véritablement a été Louis XVI. Quand il est monté sur le trône, il a compris qu'il était temps de reconnaître cette puissance. Et depuis lors, les relations...
Il avait Catherine II en face de lui aussi, alors ça a aidé.
C'est tout à fait. Et alors, ce qui est amusant, c'est que la guerre de Crimée, malgré tout, a brisé. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des relations un petit peu, je dirais, brisées, sans arrêt. Mmh. Il y a à la fois une fascination dans les deux pays, pour l'autre, et une certaine répulsion. Mais pour être honnête, les Français ont toujours eu un sentiment de supériorité vis-à-vis des Russes. La France était la puissance dominante de l'Europe. Et les Russes ont regardé les intellectuels, tout cela, ont regardé la France avec une admiration, avec une passion, et ça entraîne des rapprochements qui sont extrêmement puissants. Alors, après la guerre de Crimée, toute la fin du siècle a été l'époque où la France a compris qu'est-ce qu'il y a après la guerre de Crimée. Il y a la montée de l'Empire de Prusse. Bismarck fait l'Allemagne, l'unité allemande, et alors là, la France comprend qu'il faut bien ce pas, que celui qui est de l'autre côté, celui qui peut être l'allié de revers, rentre dans la politique française. On peut dire que c'est ça, c'est l'Empire de Bismarck a été l'élément déterminant, véritablement, de la grande alliance franco-russe de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Tout le climat du début du XXe siècle, c'est ce climat de préparation à la guerre, enfin, cette montée de la puissance allemande, de l'Empire allemand, et ses ambitions partout, dans les Balkans et partout. Et du coup, la Russie est l'allié indispensable. Et ça donne une importance considérable à Nicolas II. Ça lui donne le sentiment, si vous voulez, cette revanche dont il rêve depuis 1905, elle est là, à portée. Et c'est pour ça qu'il va se lancer dans la guerre. Alors, je voudrais dire un mot de Raspoutine, parce que Raspoutine a un rôle ici qui est extrêmement intéressant. Vous savez que Raspoutine, c'est un personnage très ambigu. Est-ce que c'était un... Je dirais, d'abord, ce n'était pas un dignitaire religieux. Il n'était ni évêque, ni prêtre, ni rien de tout ça. C'est un homme qui s'est... La Russie a le génie des imposteurs. C'est le pays où les imposteurs ont toujours fait fortune. Et en ce sens, Raspoutine était un imposteur parce que c'était un homme, c'était au fond un paysan moyennement éduqué, mais qui s'est improvisé sage, starets, c'est le sage de la religion. Et il a réussi. Et il était très intelligent, ça, il faut le dire. Et les circonstances font, ce sont les circonstances. Et une fois encore, c'est une des circonstances tragiques de la monarchie, c'est l'hémophilie de l'héritier. C'est l'hémophilie de l'héritier qui coupe le souverain de toute réalité politique, qui l'enferme, qui le rend très dépendant de sa femme. Je vous ai dit tout à l'heure que leur bonheur conjugal n'a pas été une bonne chose pour la Russie. C'est d'autant plus tragique qu'il a pitié de sa femme, il sait ce qu'elle souffre. Et véritablement, il en est dépendant. Or, elle va tomber dans la dépendance de Rasputin. Alors là, pas par mysticisme, mais tout simplement parce qu'elle est convaincue qu'il peut guérir son enfant, qu'il peut... L'hémophilie est une maladie qui fait qu'on a des crises terribles avec des hémorragies internes qui peuvent entraîner la mort et qui entraînent des souffrances terribles. Le malheureux enfant impérial, il a vécu dans les bras d'un marin qu'il transportait. Chaque fois qu'il se cognait, on avait l'impression que c'était la catastrophe absolue, qu'il allait mourir, mais il souffrait pendant des journées entières. Et Rasputin apaiser ses souffrances. Alors, un détail intéressant, parce qu'on ne sait pas très bien, est-ce qu'il avait un pouvoir réel ou pas ? Il est très, très difficile d'y répondre. Celui qui l'a tué, Félix Youssoupov, a toujours dit qu'il avait senti qu'il avait une sorte de pouvoir de magnétique. Une chose est claire, c'est qu'au fond, quand il venait auprès de cet enfant, quand il avait des crises, il jetait. Sa théorie, c'est que c'est lui qui soignait par l'imposition des mains. Il jetait tous les médicaments au feu. Or, quel est le médicament dont on se sert pour apaiser les souffrances à cette époque-là ? Le nouveau médicament qui vient de surgir, c'est l'aspirine. Or, l'aspirine, on ne l'a jamais su, on ne le savait pas à l'époque. Oui. Elle fait saigner, elle accélère les saignements.
Bien sûr.
Il est très plausible, mais on ne peut pas l'affirmer, puisqu'aucun médecin ne l'a affirmé, mais c'est l'hypothèse qui me paraît la plus plausible. Il est plausible que dès que l'enfant avait une crise, on le bourrait d'aspirine et l'hémorragie s'accélérait. Et Rasputin, jetant au feu tous les médicaments qu'il trouvait, et principalement cette aspirine, qui était le médicament miracle, ça a été inventé au début du siècle, eh bien, ça s'arrêtait. Peu à peu, l'hémorragie cessait. Et en même temps, les souffrances s'étaient atténuées. Alors, c'est pour dire que ce n'est pas très clair les conditions dans lesquelles il exerçait ce ministère de guérisseur. Mais, du même coup, il a eu une influence considérable sur l'impératrice et sur Nicolas II, mais qui était moindre. Nicolas II, c'est un peu par délégation, par attention pour sa femme. Mais Rasputin, il a été à la fois un très mauvais conseiller. D'abord, il a déshonoré la famille impériale. Il faut comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Cette famille impériale qu'on ne voit pas. Tout ça est suspect. La société se dit, on les a vus en 1913, mais depuis on ne les voit pas, ils sont enfermés, ils ne sont pas populaires. Puis à partir de la guerre, les choses. Il y a eu au début de la guerre un élan patriotique. Toute la société, et même, je dirais, jusqu'au tréfonds de la société, tout le monde était prêt à aller se battre. Mais quand on commence à se battre, on s'aperçoit que la guerre n'a pas été bien préparée, que on n'a pas tiré les leçons de 1905, les équipements sont insuffisants, et là encore, folie de l'impératrice, on distribue aux combattants des icônes, ce qui est très bien, sauf que les combattants qui n'ont pas de fusil trouvent que c'est pas tout à fait une manière de les aider à combattre. Donc si vous voulez, le doute s'insinue très vite, dès 1915, dans les rangs de l'armée. Alors, il faut ajouter à ça, donc, la guerre n'a pas été préparée. Elle n'a pas été suffisamment préparée. Il y avait une fâcheuse habitude dans le système impérial depuis très longtemps, depuis, je dirais, Alexandre II. Quand les gens, le dissentiment, ce qu'on appelle actuellement vraiment des protestataires, quand les étudiants, parce que c'est dans le milieu étudiant surtout, que le dissentiment se manifestait dans les universités. C'est par là que ça commence dans les années 1912-1913. Oui. On recommence, c'est normal, la jeunesse manifeste. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les étudiants ? Eh bien, on les envoyait travailler au chemin de fer, on les envoyait à l'armée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes gens ? Ils faisaient de la propagande anti-impériale. C'est-à-dire qu'on a précisément mis en contact une jeunesse qui est insatisfaite, qui est inquiète de ce qui se passe dans le pays, qui voit cette stagnation politique, car tout de même il y a une stagnation politique, précisément, elle est d'abord dans l'esprit des souverains, mais la jeunesse le sent. elle est un ferment de révolte et un ferment, je dirais, de dissolution de l'armée, qui n'agit pas tout de suite, mais qui va progressivement gangréner l'armée. Alors, il y a donc, si vous voulez, cette impréparation, ce regard insuffisant sur ce qu'est l'armée. Et puis alors, il y a tout de même la fidélité, alors ça, il faut le dire, l'alliance à la France, qui a coûté très cher à la Russie. Car au bénéfice, au crédit du souverain, il faut dire qu'il a été d'une honnêteté parfaite. Et là, lorsque les plans de guerre sont débattus, ce que la France lui demandait, c'est évidemment que cette alliance de revers fonctionne tout de suite, c'est-à-dire que soulager le front français. Les généraux russes savaient très bien, ils avaient en face d'eux les armées allemandes et les armées autrichiennes. Ils savaient très bien que les armées autrichiennes étaient faibles et que les armées allemandes étaient fortes. Et donc les plans de guerre russes consistaient d'abord à défaire les armées autrichiennes, l'Empire austro-hongrois, et dans un second temps seulement, à s'attaquer aux armées allemandes. Mais il se trouve que la France s'est trouvée en grande difficulté en 1915. Et qu'à ce moment-là, elle a demandé à la Russie, elle a véritablement demandé à l'empereur de se battre, de venir directement sur là où elle était, sur le front français. Oui. Bon, ça a coûté extrêmement cher. Ça a été les premières grandes défaites. Les défaites des lacs de Mazurie, qui ont été terrifiantes. Oui. On peut dire que la guerre commence très mal, au fond. Elle a commencé dans un élan patriotique, mais dès 1915... Oui. Il y a dans le pays un sentiment, au fond, que, une fois encore, le pouvoir politique n'a pas su défendre le pays, n'a pas su préparer la défense du pays. Et il ne faut pas sous-estimer la mémoire des peuples. 1905, c'est 10 ans avant.
Eh oui, c'est rien.
Les hommes se souviennent.
Absolument.
Et immédiatement revient le sentiment, nous avons été trahis. Alors, par qui est-on trahi? Alors, évidemment, il y a un personnage qui a surgi, c'est Rasputin. Parce qu'il est bizarre. L'impératrice, je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle n'aimait pas sa patrie allemande. Mais pour le pays, elle est l'allemande, comme Marie-Antoinette était l'autrichienne.
C'est ça.
Et immédiatement surgit le sentiment que la traîtrise, elle vient de là. L'impératrice est manipulée par Rasputin. Alors, c'est d'autant plus facile à dire que Nicolas II, qui avait, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un homme... Humainement, il avait des qualités. Il était très honnête. Il voulait bien faire. J'ai du remords, mais il voulait bien faire. Mais il n'avait peut-être, dans une période normale, ça se serait passé. Il n'y aurait pas eu de grandes difficultés. Il aurait pu gouverner. Pour des temps exceptionnels, évidemment, il n'était pas à la hauteur. Et il a voulu être à la hauteur. Et il a eu l'idée qu'il pouvait être le chef des armées. Et ça a été une idée funeste. Car il est parti sur le front, le chef des armées était son oncle, le grand-duc Nicolas, un géant de 2 mètres. Alors là aussi, il y a des facteurs qui jouent, c'est très curieux. Le grand-duc Nicolas mesurait 2 mètres, c'était un homme imposant, et il en imposait à l'armée. Nicolas II n'était pas grand, il devait mesurer 1m68, 70, quelque chose comme ça. Si vous voulez, ça n'a pas d'importance dans la vie courante. Mais enfin, pour les militaires...
Surtout aujourd'hui chez nous, mais à l'époque, non.
Ça jouait un rôle.
Bien sûr.
Et pour les militaires, déjà, si vous voulez, cet homme un petit peu fluet, qui avait l'air, je dirais, plutôt d'un dandy, que, à sa manière, que du puissant grand-duc Nicolas, déjà, ça a donné un sentiment d'insécurité. Mais surtout, il est parti à l'état-major. Il a quitté la capitale et il laisse l'impératrice, cette impératrice qui n'est pas populaire, l'Allemande, qui a accompagné, flanqué véritablement, de ce Rasputin que la société, dont on ne sait pas très bien ce qu'il représente. En plus, si vous voulez, comment on a caché vraiment la maladie de l'enfant? Les gens ne comprennent pas pourquoi elle s'accroche à ce Rasputin. Ils ne comprennent pas du tout les raisons de son influence. Ça paraît tout à fait suspect, cette espèce de paysan mal dégrossi, sale, qui d'ailleurs... Qui s'intéresse trop aux femmes, enfin qui a une très mauvaise réputation. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il rentre à la cour? On considère véritablement qu'il est l'agent d'influence de l'Allemagne, de tout ce qu'on voudra. Il faut dire, c'est là que je voudrais dire les choses, il faut porter au crédit de Rasputin qu'il avait écrit à Nicolas II deux choses au début de la guerre. Un, il ne faut pas faire la guerre, parce que cette guerre va mettre en péril la dynastie. et la dynastie peut périr. Il lui a lancé. Il lui a dit, si je suis assassiné, car il a eu des tentatives d'assassinat contre lui, il a dit, si je suis assassiné par n'importe qui, c'est fâcheux, mais si je suis assassiné par un membre de la famille impériale, sache, car il tutoyait l'empereur, sache, Nicolas, que le sang retombera, mon sang retombera sur toi et sur tous tes descendants, la dynastie va disparaître, aucun de vous ne régnera et aucun de vous ne survivra. C'est ce qui va arriver. Et en 1916, quand il sera assassiné, on peut dire qu'il y aura lieu de se souvenir de cette prophétie. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il y a, au fond, c'est un pays de la malchance. Et ce que Nicolas II disait dans ses confidences, je suis né le jour de la Saint-Job, il disait d'ailleurs, je n'ai jamais eu de chance. C'est terrifiant comme propos pour un homme qui gouverne. Il disait, je n'ai pas de chance. Pour un pays, être sous la, dirigé par un homme qui pense cela et qu'il pensait profondément. Et c'est la vérité, car c'est une malchance absolue. La malchance, c'est cette hémophilie. La malchance, c'est ce Rasputin. Tout se conjugue des éléments de malchance qui n'auraient pas dû exister, malgré tout. Et je voudrais vous le faire comprendre. Il y a, au fond, en 1914, dans ce pays, quand il s'engage dans la guerre, c'est un pays prospère. Il y a eu le tricentenaire. Il y a tous les éléments, je dirais, pour que le pays aille de l'avant. Il est internationalement respecté. Précisément, il a rarement été dans une situation aussi favorable. Et tout va s'écrouler à une vitesse record. Alors, il y a les défaites, c'est vrai. Les défaites de 1915 ont beaucoup impressionné la société. Mais malgré tout, il y a un patriotisme qui s'exerce. Le fait que Nicolas II ait voulu aller diriger l'armée, ça a été une malchance parce que l'armée ne se sent pas... Elle ne se sent pas en sécurité avec lui et la société soupçonne une fois encore que sa femme l'a éloigné pour gouverner avec l'aide de Rasputin, lequel Rasputin, en effet, distribue, à part les deux avertissements que je vous ai racontés, Rasputin lui distribue des conseils politiques qui ne sont pas heureux et tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'il se prononce sur la nomination des ministres, sur tout ce qu'on voudra. Alors, tout ça donne un sentiment... je dirais, de décomposition à la société. La société a le sentiment que quelque chose se décompose au sommet. Cette femme qui gouverne, accompagnée de ce faux prêtre barbu et aux mœurs douteuses, c'est tout à fait étrange. Ce souverain qui dirige l'armée. Mais précisément, on attribue les défaites au fait que, après tout, le grand-duc Nicolas a été écarté, que l'empereur n'y connaît rien. Alors, il est, si vous voulez, tous... Il n'a pas le prestige nécessaire. Donc je dirais que toutes les malchances se sont conjuguées. En gros, malgré tout, on peut dire que les choses vont à peu près jusqu'en 1917. On ne peut pas. Les prémices de la Révolution ne sont pas encore évidentes malgré les défaites. Alors ce qui se passe et qui aussi va aggraver le sort de la Russie, la fin de l'année 1916, les troupes allemandes avancent et elles pénètrent. Elles avancent en Pologne, elles avancent partout. Le résultat, c'est que les populations, quand les troupes arrivent, les populations fuient. Elles fuient vers l'intérieur. Une fois encore, il y a une mauvaise organisation. C'est-à-dire que l'alimentation n'est pas organisée. Le ravitaillement, tout ça n'est pas prévu. On ne sait pas où loger les fuyards. Il n'y a pas de troupes en déroute encore. Mais quand les troupes en déroute viendront, ça s'ajoutera. Donc il y a un climat de défaite. Un climat intérieur de défaite qui s'ajoute à ce climat malsain qui va régner sur le front à partir de 1916. Les défaites ont joué un grand rôle. On a le sentiment que l'armée n'est pas assez bien dirigée. Et une fois encore, la présence du souverain à la tête de l'armée est extrêmement négative. Voilà à peu près le tableau.
Ah, le tableau est magnifiquement dressé. Magnifiquement dressé. Et on arrive à cet événement extraordinaire qui est l'abdication. Absolument. Devant le début de la Révolution. Parce que en février 17, il n'est pas vrai de dire que tout est consommé. Or, il y a abdication du tsar. Comme s'il était défait déjà.
Abdication très rapide.
Et ouais.
Parce qu'au fond, cette révolution, on ne l'a pas vu venir. Tout d'un coup, alors je voudrais vous rappeler quelque chose. Lénine, le père de la Révolution, il n'est pas là.
Non, il n'arrive qu'en avril.
Tout à fait tranquillement en Suisse. Et il ne pense pas que la révolution est possible. C'est une chose extrêmement importante. Quand en février, les événements ont commencé, vous le savez, au fond, une fois encore, les conditions matérielles sont un élément considérable. Ça a commencé parce que les ouvrières des grandes usines de la capitale, qui crevaient de faim, les malheureuses femmes, elles travaillaient. Les hommes étaient mobilisés. Les femmes se trouvaient au premier plan. C'est elles qui faisaient tout. Elles étaient à l'usine, elles les remplaçaient à l'usine. Elles ont même été à l'armée. Et puis, il fallait qu'elles nourrissent leur famille. Comme le ravitaillement, tout ça a été mal organisé, puis il y a les fuyards, tout ça. Elles faisaient la queue pour essayer de trouver quelque chose. Et du même coup, ce sont elles qui décident véritablement qu'il faut aller dans la rue, il faut exiger du pain, il faut exiger qu'elles puissent nourrir leurs enfants. Tout a commencé par là, tout a commencé par cette révolte véritable, qui n'est même pas une révolte, je dirais, générale, mais c'est la révolte des femmes qui avaient besoin de véritablement qu'on reconnaisse...
Ça fait légèrement penser au défilé des femmes qui vont le 6 octobre ou le 5 octobre 1789 à Versailles.
Mais tout à fait, et là, mais c'est exactement ça ce qui s'est passé. Et quel est le jour décisif? C'est la journée des femmes qui les a conduites dans la rue. Oui. Bon, alors... elle lance, on peut dire que le désordre est lancé, mais il est lancé presque accidentellement. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'après la révolution de 1905, une fois encore, je veux dire qu'il y a un problème de... Alain Duhamel expliquait comment la France était gouvernée. Je dirais que j'aimerais qu'il me dise comment il pense que la Russie était gouvernée à cette époque-là. Après 1905, qui a tout de même été une révolution, les pouvoirs publics, c'est-à-dire le souverain, avec tout son conseil, avaient mis sur pied un plan anti-insurrectionnel, de façon à protéger la capitale. Mais c'était un plan tout à fait remarquable, qui devait être mis en route tout de suite. Quand les désordres commencent, le plan insurrectionnel est engagé, mais il s'est passé cette chose extraordinaire, c'est qu'il y a une sorte de fraternisation avec les éléments militaires qui étaient là, les éléments des services de l'ordre, qui désorganisent le pays extrêmement rapidement. Alors, je voudrais vous dire qu'à ce moment-là, dès qu'on sent que la révolution est arrivée, les amis de Lénine en Suisse sont allés... Lénine faisait une conférence à la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds est un village qui concentre des ouvriers horlogers parce que c'est un village assez isolé. Et les horlogers ont besoin de tranquillité pour travailler. Il aimait beaucoup parler aux horlogers. Il était à la Chaux-de-Fonds et ses camarades sont venus lui dire « Camarade, il y a la révolution en Russie ». Et Lénine y croyait si peu qu'il a dit « Écoutez, je suis là pour faire des choses sérieuses. Quand les Suisses bougeront, vous me direz « Il y a la révolution ». Mais pour l'instant, je ne bouge pas. » On sait dire à quel point, si vous voulez, cette révolution n'était pas chez ceux qui y ont pensé, chez ceux qui... d'ailleurs qui s'en attribue les mérites, était tout à fait imprévu. En revanche, et c'est la question que vous posez, ça conduit très vite à l'abdication du souverain, tout simplement parce qu'il ne sait plus quoi faire. On lui rapporte qu'il y a des désordres dans la capitale, il décide de retourner auprès de sa famille, son train est arrêté en route, et les militaires, les généraux qui l'entouraient, et une fois encore, je reviens au fait qu'il ne fallait pas qu'il prenne la tête de l'armée, c'est évident. Les généraux qui l'entouraient, qui considèrent que il n'est pas en mesure de faire quelque chose, prennent peur et n'empêchent pas et lui disent, au fond, sont incapables de le ramener dans la capitale, sont incapables de lui donner des directives. Il se retrouve coincé à l'état-major où arrivent des représentants de ce nouveau pouvoir qui se dessine, qui sort de la société, qui sort de quoi? Qui sort du Parlement, de la Douma, la quatrième Douma, parce que ce sont tout de même les gens, les premiers gens qui prennent le pouvoir. Ce ne sont pas ni des va-nu-pieds, ni Lénine, ni les bolcheviques. Il y avait 4 parlements élus depuis la révolution de 1905. La quatrième Douma, elle siégeait. Et elle a eu une durée tout à fait normale. Et ce sont les chefs de parti qui ont décidé de prendre la situation en main. C'est comme ça que se forme véritablement une autorité. Et des gens qui décident tout tranquillement qu'il faut aller dire à Nicolas II qu'on ne peut pas continuer, qu'il faut qu'il laisse la place.
C'est fini.
Et Nicolas II a été, alors là aussi, c'est tout à fait étonnant, on sent quel point, je dirais, cet homme n'était pas préparé aux événements. Il s'est trouvé en face des délégués de la Douma venus lui dire qu'il fallait abdiquer, entouré de deux généraux. Alors il décide, on sent très bien quand on relit les documents, il décide d'abdiquer en faveur de son fils, ce qui encore été logique. Et puis, là-dessus, il a un moment d'angoisse et il dit « Ah oui, mais mon fils est malade ». Il convoque le médecin, il dit « Est-ce que mon fils... » Non, il dit d'abord aux parlementaires « Vous me laisserez auprès de mon fils si... ». Parce qu'au fond, il ne voulait pas encore abolir la monarchie dans un premier temps. C'est Nicolas II dont on voulait se débarrasser.
Mais c'est Napoléon Ier et Napoléon son fils. Hein.
Exactement. Et seulement, là, la situation a été tragique parce que, obsédé par l'enfant malade, il dit « Est-ce que je pourrais rester auprès de lui ?» Il lui dit « Écoutez, si votre fils monte sur le trône, c'est lui. » Alors il dit « Ben non. » Et il a signé un premier acte d'abdication en faveur de son fils. 2 heures plus tard, il en signe un second. Il renonce au trône pour son fils, ce qu'il n'a pas le droit de faire constitutionnellement. Et il renonce en faveur de son frère. Le frère qui était le grand-duc Michel, qui était un homme très bien, dit « Moi, je suis désolé, on est dans une situation révolutionnaire. Là, alors, c'est à une assemblée constituante de se prononcer. C'est au peuple de se prononcer, et pas à moi. Et le trône est vacant. » C'est-à-dire que là aussi, si vous voulez, il y a un enchaînement d'événements. Personne ne tire. Il n'y a pas un coup de fusil tiré. Tout se passe tout à fait calmement. Mais il y a un souverain qui est désemparé, qui ne sait pas quoi faire. Et la vacance de la monarchie est morte comme ça, je dirais, par tout simplement vacances. Parce que personne ne l'occupe.
Le siège était vacant.
Voilà. Alors cela dit...
Oui, pardon. Non, je vous en prie, cela dit.
Non. Cela dit, la famille impériale est encore vivante.
Alors, c'est ma question. C'est-à-dire qu'en effet, la famille royale est encore vivante. On va avoir... Lénine va prendre le pouvoir au mois d'octobre. Et la tragédie finale n'est que... au mois de juillet 1918. Or, en France, le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, donc 1791 au mois de juin, la fuite à Varennes, puis en gros l'enfermement, mais le procès avant l'exécution de 1793, janvier, et le milieu de l'année pour la reine Marie-Antoinette. Pourquoi Lénine fait-il assassiner la famille en catimini? Parce que c'est la famille sacrée, et qu'est-ce qui se passe au lieu de passer par un procès ou je ne sais quoi, qui en quelque sorte désacralise la famille comme nous l'avons fait, puisque l'inspiration, dira-t-il, lui venait de la Révolution française. Alors, mon ultime question.
L'histoire de la Révolution française, de l'inspiration française est très intéressante d'ailleurs. Bon, pour tout dire, la famille impériale russe, elle a été très encombrante pour les gens qui ont pris le pouvoir dès, je dirais, sous le gouvernement provisoire. Déjà, on ne sait pas très bien quoi en faire. On la relègue, l'empereur rejoint sa famille. Ils sont dans leur palais aux environs de la capitale et sous surveillance. Et puis après, on commence à les trimballer. Dès que le pouvoir se dessine en faveur des bolcheviks, Kerensky avait essayé de préserver la famille impériale. Il ne savait pas très bien quoi faire. Il a toujours dit qu'il aurait souhaité... Alors ça, c'est un autre problème que je vous livre, un problème historique très intéressant. Kerensky avait demandé à l'Angleterre... L'impératrice était d'origine anglaise et le souverain était le cousin du roi d'Angleterre, à qui il ressemblait comme deux gouttes d'eau. Il a demandé à la famille, à la couronne anglaise, s'il pouvait accueillir, Lénine n'était pas encore au pouvoir, s'il pouvait accueillir la famille impériale. La réponse britannique a été tout à fait étonnante. C'est, il faudrait que vous payiez la pension de la famille impériale. En d'autres termes, on n'en veut pas. Non, oui, mais c'est très grave. Il y a tout de même eu une volonté anglaise de ne pas se mêler de l'affaire. Et on peut dire que c'est une tâche sur la couronne britannique. C'est extrêmement triste, mais c'est comme ça. Je vous le raconte, ce n'est pas anecdotique, c'est archivé. Oui. Bon, Kerensky, à ce moment-là, a renoncé. Et puis, Lénine arrive au pouvoir. Et à partir du moment où Lénine arrive au pouvoir, lui-même est encombré de la famille impériale. Il ne sait pas très bien quoi faire, parce que c'est là que les tués, on ne sait pas, on les expédie en Sibérie. Et il y a des périples en Sibérie que je n'ai pas le temps, mais qui sont absolument hallucinants, parce que tantôt les enfants sont avec leurs parents, tantôt ils ne sont pas avec leurs parents. Enfin, c'est un, mais l'impératrice veut être avec son mari, avant tout. Et il se retrouve pour finir à Ekaterinbourg, dans une... Ekaterinbourg, c'est une ville charmante, c'est une ville de l'Oural. L'Oural est une région déjà très isolée, surtout à cette époque-là. Ils sont logés dans la maison d'un très riche marchand, ce qui s'appelle la maison Ipatiev. Mmh. Alors là, il y a des symboles qui sont très intéressants. Parce qu'il se trouve que Ipatiev, il y avait un monastère Ipatiev. C'est là qu'on est allé chercher, après les troubles en Russie qui avaient dévasté la monarchie russe pré-Romanov au XVIe siècle, on est allé chercher, les boyards se sont entendus pour aller chercher un souverain. Ils ont élu un jeune homme, Michel Romanov, le premier des Romanov. C'était un jeune homme de 16 ans qui se trouvait dans un monastère qui s'appelait le monastère Ipatiev à Kostroma. Symboliquement, c'est tout à fait étonnant.
Ah, oui.
Bon, la dynastie Romanov est née au monastère Ipatiev. On ne peut pas ne pas se demander ce que Nicolas II, qui connaissait l'histoire de sa famille et de sa dynastie, ce qu'il a pensé en arrivant dans quelque chose qui s'appelait la maison Ipatiev. C'est absolument saisissant. C'est après ce périple tragique, où, alors là, c'était terrible, parce qu'ils étaient gardés par des hommes extrêmement violents, qui les insultaient, qui se moquaient d'eux. Bon, mais la famille impériale était ensemble, et quand on voit les carnets de l'impératrice, je reconnais que cette femme qui par ailleurs était tout de même très, très fière, très, et puis de mauvais conseils, là, elle a réfléchi. Et elle a une dignité dans cette dernière période. Ça rappelle Marie-Antoinette, qui est tout à fait étonnante. Enfin, elle est allée vers la fin avec une sérénité, avec un courage tout à fait admirable. Et on voit très bien, parce qu'elle a des carnets, elle avait des petits carnets de blanchisseuse, où elle écrivait avec un crayon. Et quand on les lit, on voit vraiment une résignation, une sagesse. Elle dit, je remercie Dieu, nous sommes ensemble, et Dieu décidera de notre destin. Enfin, c'est quelque chose. Elle dit, il faut pardonner, nous avons été insultés, mais nous ne devons surtout pas nous révolter. C'est très, très intéressant. En tout cas, bon, ils ont vécu une période tout à fait terrible. Et puis, ils sont exécutés. Lénine fait assassiner tout le monde dans les caves. On les fait descendre une nuit dans la cave de la maison Ipatiev, et ils sont tous tués, y compris l'enfant qui était dans les bras, le tsarevitch, qui était dans les bras de son père, parce qu'il ne pouvait pas se tenir debout. Alors, la question qui se pose, et vous avez raison de la poser, qu'est-ce que c'est que cet assassinat, d'autant, si vous voulez, que l'assassinat n'est pas reconnu pour autant, que pour commencer, le pays n'en sait rien, et que les nouvelles qu'on donne, on dit, eh bien, l'empereur a été arrêté, il a été passé par les armes parce qu'il voulait, il y avait à ce moment-là, c'est la guerre civile tout de même, et il y avait les Tchèques, les troupes tchèques qui menaçaient, semble-t-il, la ville d'Ekaterinbourg. Bon, il voulait prendre contact avec les armées blanches, mais la vérité, c'est qu'on dit simplement, la famille impériale est partie à l'étranger, elle a été mise à l'abri et tout le monde se porte très bien. Il y a eu un silence de mort là-dessus. Ça, c'est le premier mystère. Ils étaient tous morts. Première question, pourquoi ? Question fondamentale, d'abord, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas dit ? Ça prouve bien que Lénine n'était pas à l'aise avec cette affaire. Vous dites, c'est pas s'il avait fait un procès, très bien. La question s'était posée. Trotsky avait dit, il faut faire comme dans la Révolution française, il faut juger le souverain. Lénine était un juriste. C'est ça qui est tout de même très intéressant. Un juriste de formation. Il n'a pas voulu. Et il n'a pas voulu, certainement, il a eu peur des réactions. Il s'est dit que mieux valait ne pas traiter la question. Alors, allant au-delà, il n'a jamais voulu reconnaître les choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas assumé. Et l'information qui a suivi, c'est que la décision avait été prise par les autorités locales, par le commandant local, et que le pouvoir à Ekaterinbourg, c'était à des milliers de kilomètres de la capitale. Alors, personne n'y était pour rien. C'était une décision locale. Et on peut dire que jusqu'à la fin du régime soviétique, jusqu'à la fin, on n'a pas su la vérité. Alors, on n'a pas su la vérité. D'abord, la question numéro un, c'est incontestablement, la réponse, c'est un refus absolu d'assumer ou de considérer qu'il faut assumer une chose pareille. Il est clair que Lénine a dû penser tout de même qu'il y aurait une que la société n'était peut-être pas capable d'assumer une chose pareille. En tout cas, parce qu'il s'agissait d'un couple de quatre jeunes filles et d'un malheureux adolescent qui était malade, très malade, même si on ne le savait pas très bien. Bon, il n'a pas voulu assumer et il y a eu ce silence de mort, ce qui fait qu'en 1992, ce qui est tout de même absolument extraordinaire, le régime soviétique est mort à la fin de l'année 91. En 1992, les soviétiques, les russes qui avaient été des soviétiques, ont découvert avec stupéfaction ce qui s'était passé. Et moi, j'ai vu une exposition à Moscou, magnifique, dans la salle du manège, de la famille impériale. Et les gens étaient là, c'était extraordinaire, les visiteurs, ils sont venus de tout le pays. Ils étaient installés, ils disaient, mais qui sont ces jeunes filles? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, moi, comme personne ne pouvait leur expliquer, je faisais un cours. Personne ne m'avait rien demandé. Et vous ne pouvez pas imaginer le succès que j'ai eu. C'était absolument... Les gens allaient chercher des gens dans la rue, ils disaient, il y a une personne qui sait ce qui s'est passé. Non, c'est pour vous dire, si je raconte cette anecdote, c'est pour vous dire à quel point, tout de même, 1918, 1992, le silence de mort a pesé sur cette affaire et le régime soviétique a traité de calomniateurs tous ceux qui s'autorisaient à raconter cette affaire. Alors, il reste que la question qui se pose, c'est est-ce que la décision a été prise par Lénine ou est-ce qu'elle a été vraiment prise sur le terrain? Il paraît tout à fait douteux que Lénine n'ait pas pu la prendre et ce que l'on sait, les documents que l'on a, quand on a interrogé un certain nombre de responsables, ils ont dit, mais non, évidemment, ça a été pris au sommet.
Bien sûr.
Ça, c'était... Et je crois que la réponse vraie, elle a été prise au sommet. Alors, cela dit, toute la famille a été exterminée. Il y avait en Sibérie, dans divers lieux de relégation, d'autres membres de la famille Romanov qui ont été, à quelques exceptions près, ont été massacrés. Il y a celui qui avait participé au meurtre de Raspoutine qui avait été expédié en Perse, ça lui a sauvé la vie. Mais l'empereur s'était fâché, évidemment, parce qu'il avait... Il disait que... Vous savez que quand Raspoutine a été tué, Nicolas II a pris... La réaction a été extraordinaire. Il a dit, on ne peut pas qu'un membre de la famille impériale tue un moujik russe. Ça, c'est un blasphème absolu, parce qu'il y a entre le moujik... Une fois, tout est placé sous le signe de la religion. Entre le moujik, c'est-à-dire l'homme de la terre, et celui qui est au sommet, il y a une relation quasi religieuse. C'est ça qu'il n'a pas pardonné. Ce n'était pas un meurtre politique, c'était le fait que ce soit un moujik qu'on ait tué. Et c'est comme ça qu'il a sauvé son cousin en l'expédiant dans les troupes en Perse, uniquement pour le punir. Mais le gros de la famille Romanov a été exterminé, et ça donne une véracité extraordinaire aux propos de Raspoutine. C'est vrai que la monarchie est morte dans la guerre, et c'est vrai que la dynastie a été exterminée. Je ne dirais pas conséquence de sa mort, mais enfin, c'est ce qu'il avait prédit.
Merci beaucoup. Et donc, on va vous applaudir, bien sûr, mais...
Est-ce que...
Mais il faut aussi vous laisser quelques minutes pour quelques questions. Je vais en prendre deux ou trois.
Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter quelque chose parce qu'il y a une question que peut-être personne ne posera, alors je la pose toute seule. C'est le centenaire et au fond, comment est-ce que la Russie marque ce centenaire? Car c'est tout de même très intéressant.
Oui.
On peut dire qu'elle s'était beaucoup interrogée. Vladimir Poutine, clairement, s'était interrogé pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait véritablement aller au fond de l'affaire? Est-ce qu'il fallait commémorer? Est-ce qu'il ne fallait pas commémorer? Alors, ça se situe, je dirais, à un niveau très scientifique, très élégant, très scientifique. Il y a des grands colloques qui sont organisés, on publie énormément de documents d'archives, et véritablement, on va parler de cela, non pas du tout sur un ton de repentance, c'est très important, mais sur un ton scientifique. Essayer de comprendre ce qu'a été cette révolution. Mais ça reste international, d'abord, ce qui interdit les polémiques, et ça reste extrêmement documenté, ce qui aussi n'en fait pas un objet de débat polémique. On sent une certaine inquiétude, c'est-à-dire que je crois que le pouvoir russe aujourd'hui, Vladimir Poutine, ne tient pas du tout à ce que tout d'un coup on mette... Déjà, on a canonisé la famille impériale, sachez-le, là. Elle a été canonisée par le patriarcat de Moscou il y a quelques années. On peut s'interroger, d'abord, on ne canonise pas à cette vitesse. Ils disent que c'est un exemple de résignation, d'acceptation de la souffrance. Bon, et vous pouvez acheter des icônes avec la famille impériale, c'est très, très touchant. Mais ce que Vladimir Poutine veut éviter, certainement, c'est l'ouverture d'un immense débat sur la légitimité de cette révolution. Il préfère que ce soit tout simplement factuel.
C'est ça, donc, c'est... de l'histoire.
Oui. Mais surtout pas de repentance, je dirais. Absolument. C'est intéressant, oui, dans la mesure où on voit,
dans la psychologie,
avec ce qui se passe aux États-Unis partout, oui. Il y a le désir que ça rentre dans l'histoire.
Voilà.
Que ça soit des pages de l'histoire de la Russie.
La science. Une ou deux questions ? Micro ? Oui, une question, monsieur. Non, micro d'abord. Il faut que vous ayez le micro.
Oui. Pourquoi certains historiens comme Ferro refusent la thèse du massacre des filles de l'empereur et parlent d'évasion, enfin, ou de substitution avec la complicité des bolcheviks? Et deux, qu'est-ce qui est devenu le frère de l'empereur, le dernier tsar?
Voilà. L'antique Michel, il est mort en exil. Il est mort tout à fait tranquillement.
Madame, on va prendre le micro.
Pardon, il est mort tout à fait tranquillement en exil. Bon, lui n'a pas été massacré. Pour le reste, alors, la thèse de la substitution, c'est qu'est-ce que vous entendez par là ?
Elle est là.
Oh. Ah, il est devant nous, monsieur.
Non, mais l'historien Ferro,
Marc
connu,
Ferro,
oui,
c'est ça.
Je sais.
Parle, ne croit pas à la thèse du massacre.
Oui, mais ça.
Voilà, c'est pour ça.
Bon,
alors
écoute...
pourquoi cette polémique ? Alors que...
C'est pas une polémique. Je crois que c'est sa thèse, mais elle n'est pas très largement, elle n'est pas très largement acceptée, et elle n'est pas fondée sur des archives. Et son héros n'est pas très crédible. Mais ça, je veux pas polémiquer avec ça. Ça n'est pas un vrai sujet de polémique. C'est vraiment franco-français et même en France, on en débat pas beaucoup. Mais c'est une thèse amusante. Non, mais je pense, si vous voulez, il faut précisément des thèses comme ça. Mais elle n'a pas d'assises. Vous savez, alors, on a trouvé, je vais vous dire, on a tout de même la réponse, c'est qu'on ne savait pas où était la famille impériale. Et on a cherché. Et il y a une commission qui a été nommée, donc il y avait à sa tête le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, qui était grand juriste et un grand démocrate. Et Sobchak a eu l'idée véritablement de faire creuser, parce qu'on a pensé qu'ils avaient été jetés dans un puits et arrosés de chaux vives. Et ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. En fait, on a, surtout ce sont les enfants, pour qu'on ne les retrouve pas, il y en a qu'on a mis sous les rails. On a enlevé les rails d'une voie ferrée, on a creusé dessous, on a remis les rails. Actuellement, alors, on a trouvé les restes de 4 enfants. L'héritier et 3 filles. Alors actuellement, il y a une fille et l'héritier. Les deux filles, les parents ont été ensevelis dans la forteresse Pierre-et-Paul, qui est la nécropole impériale. Et actuellement, on a retrouvé les restes de la dernière fille, qui n'est pas Anastasia. Anastasia, elle a été identifiée grâce d'ailleurs au duc d'Édimbourg, puisque c'est lui qui a fourni l'ADN pour pouvoir identifier ses restes. Et l'héritier, c'est la grande-duchesse Marie, probablement, se trouve actuellement dans une grande salle, leur cercueil, enfin le cercueil contenant les restes ou l'urne, je ne sais pas très bien, se trouve dans une salle des archives d'État de Russie, en attendant qu'on décide quelle sorte de cérémonie on va faire pour les ajouter au reste de la famille dans la nécropole impériale. Parce que c'est compliqué, si vous voulez. On les a trouvés plus tard, on les a identifiés plus tard, et c'est pour ça que ça enlève du... Je dirais des arguments à Marc Ferro, parce qu'on a tous les restes sont là. Mais l'idée de les cérémonies qu'on avait faites en 1992 pour les mettre sous l'autorité de Boris Eltsine ou 93, pour les mettre dans les nécropoles impériales, Vladimir Poutine hésite à recommencer. Vous comprenez, ça avait été une cérémonie extraordinaire. Boris Eltsine était venu et il avait demandé pardon. C'est d'ailleurs celui qui avait fait raser la maison Ipatiev, alors, puisqu'il était responsable des communistes d'Ekaterinbourg à l'époque. Et il a demandé pardon à la fois à la mémoire de la famille impériale et au peuple russe de ce qui avait été fait. Ce qui était logique, je veux dire, c'était pas une repentance, c'était un acte de réconciliation. Mais on peut faire ça une fois. Deux, c'est plus compliqué. Alors, il y a un problème d'État, véritablement. Comment est-ce qu'on va faire avec ces restes ? Ce qui me paraît tout à fait déplaisant, parce que quand je vais dans les archives, je me dis, c'est embêtant de penser qu'il y a là des restes qui se trouvent, dont on ne sait pas très bien comment on va les ensevelir. Et ça, c'est l'anecdote, mais qui montre la complication, je dirais, pour un système politique qui a liquidé la révolution, comment faire pour arriver à tout remettre en ordre ? Et ça, c'est une question très, très compliquée. La Révolution française a eu beaucoup moins de problèmes parce qu'il y a eu la Restauration, tout ça.
C'est Napoléon qui s'en est occupé.
Voilà. Tandis que, oui, mais le temps joue un rôle. Ah, oui, mais évidemment. 75 ans, c'est très long.
C'est
75 ans pendant lesquels la société a été élevée dans une mythologie. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tué la famille impériale, que de toute façon, que c'était des buveurs de sang, etc. Donc la remise en état de l'histoire, la remise à plat de l'histoire est un processus extrêmement compliqué. Et qui nécessite, je dirais, une réflexion et des historiens et du pouvoir qui n'est pas achevée.
C'est une magnifique présentation que vous avez faite de cette question. Je vous en remercie infiniment. Je voudrais vous laisser un peu de temps tout de même pour pouvoir signer pour nos amis les livres que vous avez publiés. Et je vous remercie d'avoir ainsi conclu ce cycle de conversation par une démonstration fantastique. Merci.
Merci.